Bonjour à toutes et à tous, 25e numéro de Mémoire Aveyronnaise sur CFM Rodez, une émission proposée par Vincent Besombe. Salut Vincent.
Salut.
Vincent, président du comité Rodez du souvenir français.
Affirmatif.
Et nous sommes le 1er novembre, nous sommes bien présents pour cette nouvelle émission. Alors toi, tu as
fidèle
en plus
poste,
la particularité, Vincent, d'être un peu partout. Hein, ce 1er novembre, tu es avec moi dans les studios.
Ah, je j'ai le don d'ubiquité.
Où est-ce qu'on peut te croiser aujourd'hui ?
Aujourd'hui, vous pouvez me croiser toute la journée au cimetière de Rodez pour la quête du souvenir français.
D'accord.
À la porte basse. Moi, je suis la porte côté... Alors, je dis toujours avenue du Rand-de-Gros, mais c'est un peu plus haut. Mm-hmm. Avenue de Paris.
D'accord. Et là, jusqu'à quelle heure ?
Ouais, jusqu'à 17h, quelque
d'accord,
chose comme ça.
Et donc,
ouais,
on 17 peut...
10, peut-être 17h30, on verra si les gens sont généreux ou pas.
Alors tiens, et juste un petit mot, puisque tu fais la quête pour le comité Rodez du souvenir français dont tu es le président,
oui.
Un petit mot là-dessus. Juste cet argent, il va servir à quoi ?
Je ne le garde pas dans mes poches, je vous rassure.
je sais bien.
Alors, cet argent que je vais récolter, que mon comité va récolter, en fait, on le partage en deux.
Oui.
Le comité en garde la moitié. Et l'autre moitié est versée à la délégation générale. Et en fait, cet argent va être destiné à tous les projets qu'on peut avoir, les projets au niveau des restaurations, des nettoyages de tombes, des plaques commémoratives.
Projet mémoriel.
Voilà, pour le travail pour lequel on a été créé, l'entretien des tombes militaires et pour aussi le côté mémoriel.
Tout à fait. Et Vincent, bon bah on te connaît, t'es une célébrité à la radio. Maintenant, le problème de la radio, c'est qu'on ne voit pas. Donc comment on saura que c'est toi ? T'as une tenue ?
J'aurai mon costume avec ma cravate.
D'accord, un homme à cravate.
Un homme à cravate avec, tu sais, comme la mamie qui fait la quête dans le film avec De Funès, là, tu sais, à l'église. J'aurai un tronc.
Ah oui, la petite
j'aurai pas la clochette, mais j'aurai un tronc pour un tronc officiel du souvenir français. Et ouais, il y aura une petite banderole souvenir français. Voilà.
Très bien. Alors, aujourd'hui, pour cette 25e émission, Vincent, tu nous as annoncé il y a 15 jours qu'on allait parler, enfin, que tu allais nous parler des hôpitaux militaires de Rodez.
Alors, pas que Rodez, mais les hôpitaux temporaires en France, il y en avait rond durant la Grande Guerre.
Voilà. Parce
c'est
que
ça.
Rodez, ça n'a jamais été sur le front de grand-chose. Enfin, si, peut-être à la guerre de 100 ans, à un moment donné. Mais...
À un moment donné, oui.
Peut-être. Voilà.
Oui, oui.
Mais voilà, donc pas en première ligne, Rodez, hein, mais Rodez bah, qui a eu un rôle. À
tout
jouer
à fait.
Pendant la Grande Guerre,
tout à fait.
Notamment.
Comme beaucoup de villes de France. On a tendance à l'oublier, oui.
Ouais. Des hôpitaux temporaires, c'est-à-dire qu'ils ont été construits...
Avant l'heure, c'est pas l'heure, et après l'heure c'est ça... C'est plus l'heure.
D'accord. Donc, on ne parle pas de l'ancien hôpital de Rodez, là, qui est juste à côté
de
la
Je vais en parler aussi.
Ok. Bon, bah,
parce qu'il en fait aussi partie.
Il en fait aussi partie.
Il y a plusieurs. On va voir, il y a plusieurs types d'hôpitaux temporaires.
Ah bon ?
Ouais.
Ah oui, il y a ceux peut-être en dur et ceux sous détente.
Non, oui, aussi, mais non, chez nous, tout était en dur quand même.
Ah, bah, c'est bien.
Tout était en dur. C'est un découpage administratif, suivant qui s'en occupe. On va en parler dans quelques secondes.
Eh bien, alors, allons-y. Cette grande guerre, la Première Guerre mondiale, elle débute à l'été 14.
Oui, alors moi, je vais parler pas de 14, mais je vais commencer 1913,
ah
vois,
ouais.
pas très loin.
On la sentait venir.
Voilà, depuis 1913
ouais,
d'ailleurs,
ouais,
depuis
ouais.
Un petit moment. Alors en 1913, le service de santé des armées se prépare, et comme on vient de le dire, à une grosse guerre hein, avec le voisin allemand qui, on le sait, à cette époque-là, a été assez belliqueux. À cette époque, les lits pour les militaires blessés ou malades se trouvent uniquement dans les hôpitaux militaires présents dans les grandes villes.
Mm-hmm.
Donc, il y en a,
ouais, y en a
un nombre suffisant pour le temps de paix,
ouais.
Mais pas pour les temps de guerre.
Mm-hmm.
Conscient qu'en cas de conflit, donc ces lits ne suffiront pas, l'armée s'adresse à la Croix-Rouge, qui s'engage à ouvrir et à entretenir des hôpitaux auxiliaires dès que la guerre sera déclarée.
D'accord.
Alors, la Croix-Rouge, à cette époque, c'est une entité qui regroupe beaucoup de choses, dont... trois sociétés d'assistance humanitaire qui sont très connues donc pour la guerre de 14 pour justement l'aide aux blessés militaires. Je vais vous les citer, ces trois. La première, c'est la SSBM, c'est-à-dire Société de secours aux blessés militaires, qui est relativement ancienne. L'UFF, l'Union des femmes françaises. Et l'ADF, c'est-à-dire l'Association des Dames de France.
D'accord, donc tout ça compose la Croix-Rouge.
La Croix-Rouge, tout à fait.
Okay.
Je ne sais plus, je crois que c'est après la guerre, je ne veux pas dire de bêtises, mais dans l'entre-deux-guerres, en fait, toutes ces associations vont disparaître et on n'aura que vraiment une seule entité qui sera la Croix-Rouge. Alors, les premiers mois du conflit sont les plus meurtriers de la Première Guerre mondiale. On compte 301 000... Tu es en 5 mois.
Côté vraiment, français ou des deux côtés?
Côté français, là. C'est vraiment énorme.
Bah oui.
Le service de santé de l'armée est confronté dès le début à un afflux massif vraiment de
submergés.
Parce que là,
tu parles
de blessés et de malades.
Tu parles des
blessés et malades. Oui. Là, je parle des tués.
Ouais.
Mais les blessés,
il y a peu nombreux.
Ah oui, mais d'ailleurs, je vais vous en parler. Du 2 août au 31 décembre 1914, on compte près de 800 000, côté français toujours, près de 800 000 blessés et plus de 300 000 malades. Tu vois, c'est vraiment catastrophique. Énorme. On ne s'attendait pas. Déjà, on s'attendait, tu sais, comme c'est les Français,
fois,
comme toutes les guerres, comme à chaque fois.
Dans un mois,
on est à Berlin et puis c'est terminé. Là, on ne s'attendait pas à ce que ça soit aussi violent et à ce qu'il y ait vraiment autant de morts et autant de blessés.
Eh oui.
Heureusement, la Croix-Rouge tient ses engagements et dès la déclaration de guerre, on va réquisitionner des locaux pouvant accueillir au moins 20 lits. En dessous de 20 lits, si on ne peut pas y mettre 20 lits, on ne réquisitionne pas le bâtiment.
Mmh.
Alors, dans toutes les villes de France qui sont desservies par une gare, parce qu'on va le voir, tous ces blessés vont être amenés par train, c'est ce qu'il y a vraiment de plus rapide. On réquisitionne en priorité les bâtiments qui ont déjà de nombreux lits. Je veux bien sûr parler des établissements scolaires, des couvents, des séminaires, comme à Rodez, on va le voir, des hôpitaux civils et des cliniques, et même des cliniques privées, et même aussi certains hôtels qui vont être réquisitionnés.
Mais tu sais, ça me fait penser...
Pas en Aveyron.
Ça me fait penser en moins pire. Mais bon, pendant le Covid, c'était un peu ça, on réquisitionnait les cliniques.
Oui, tout à fait. Ouais. On voit même, ce qui est assez amusant, quand on visite certains grands châteaux, on voit même des plaques commémoratives qui rappellent ce souvenir, notamment Chenonceau, dans la grande galerie de Chenonceau, le château de Chantilly et Vaux-le-Vicomte, pour ne citer qu'eux, qui vont ouvrir leurs portes aux blessés de guerre. Donc cette belle galerie, tu sais, une galerie pont là, qui traverse je sais plus quel c'est pas la Loire, mais c'est le Cher peut-être, qu'est-ce qui coule sous...
C'est peut-être la Loire, non?
Non, c'est pas la Loire. Chenonceau, donc on imagine de chaque côté, tout était plein de lits. Et c'est vrai que lors des visites, alors moi j'ai toujours l'œil qui traîne pour les plaques commémoratives, mais c'est peut-être pas assez rappelé. J'espère que depuis le centenaire, c'est rappelé un peu plus. Alors ces hôpitaux sont répartis, je le disais tout à l'heure, en plusieurs catégories administratives. Les hôpitaux qui dépendent du service de santé de l'armée sont les HC, c'est-à-dire hôpitaux complémentaires. Donc qui viennent en complément des hôpitaux militaires qui existent déjà. Ceux qui sont tenus par une des trois sociétés d'assistance humanitaire de la Croix-Rouge dont je viens de parler, sont des HA, c'est-à-dire hôpitaux auxiliaires. Les hôpitaux civils qui accueillent également des militaires deviennent des hôpitaux mixtes, c'est-à-dire
civils
et militaires, qui sont bien par contre séparés, on ne les mélange pas dans l'hôpital.
Ouais.
Et les hôpitaux qui sont gérés par des entreprises, on va voir ça tout à l'heure, pour l'Aveyron. On a le cas en Aveyron. Des associations, des communautés religieuses, par exemple, deviennent des HB. Les HB, c'est les hôpitaux bénévoles. Alors, ils sont tous numérotés, ces hôpitaux. On parle de...
HB1, HB2...
Voilà, tout à fait. Sauf que les HB ont un numéro suivi de la mention BIS. Me demande pas pourquoi.
Non, je ne demande pas pourquoi. Okay, d'accord.
C'est l'administration militaire. Donc eux, ils devaient avoir une bonne raison.
Ouais.
Je ne la connais pas.
Ouais.
Et cela ne nous
regarde pas.
Le parcours des blessés est vraiment très long et chaotique avant d'arriver dans nos hôpitaux de l'arrière. Alors, un blessé est d'abord retiré du front par des brancardiers et conduit dans une antenne médicale de campagne où il reçoit les premiers secours.
Ouais.
Voilà, on stabilise un petit peu les blessures et après on dispatche suivant s'il peut être sauvé ou si c'est plus compliqué. Il est ensuite conduit en camion ambulance vers la gare la plus proche et chargé dans des trains sanitaires de blessés de guerre qui conduira donc ces blessés vers un des 10 000 hôpitaux de l'arrière.
10 000 hôpitaux,
ouais. On va voir ça maintenant, on va voir quelques chiffres. De 1914 à 1918, le service de santé de l'armée et la Croix-Rouge ont fait face à l'accueil et aux soins de plus de 4 millions de blessés au niveau militaire, blessés et malades, on oublie aussi les malades, avec forcément d'énormes pics durant les grandes offensives.
Et oui.
C'est là où la boucherie était malheureusement la plus... la plus grosse. Mmh. Et plus de 5 millions de soldats malades dans près de 10 000 structures de soins provisoires, dispersées sur tout le territoire national, avec près, alors attention, de 500 000 lits.
Ah oui,
500 000 lits ouverts dans tout le territoire national. Ils sont encadrés par 168 000 soignants, dont 21 000 médecins et 130 000 infirmières, parmi lesquelles on trouve des religieuses infirmières qui pourtant avaient été chassées des hôpitaux publics en 1905, tu sais, oui, lors de la loi de séparation de l'Église et de l'État.
Tout à fait.
Elles ne sont pas rancunières. Hein. On les chasse et quand même elles reviennent pour le bien national et aider un petit peu ces pauvres soldats. On l'a déjà vu dans une chronique précédente, la chronique sur les lieux emblématiques, tu sais, la visite guidée qu'on avait fait sur les lieux emblématiques de Rodez pendant la Seconde Guerre mondiale. À la cathédrale de Rodez, hein, je le rappelle, qu'est-ce qu'on a? Si tu t'en souviens, on a beaucoup de choses.
La cathédrale de Rodez, mais qui a à voir avec les hôpitaux?
Ouais.
Non.
On a deux vitraux. Alors, un vitrail sur les prisonniers de guerre.
Oui.
Et un second vitrail sur les femmes durant la guerre.
Ah, tu vois, celui sur les prisonniers de guerre, je me souviens maintenant. Ouais. Et sur les femmes, bah, tu vois, merde, c'est pas bien de ma part.
Ah, bien, je suis là, j'oublie.
C'est pas bien.
C'est pas bien parce qu'il est vraiment très beau.
D'accord, il est où quand on entre par le côté, on va dire.
Portail nord, c'est-à-dire en face le palais épiscopal. Ouais. Tu rentres, tu vas tout de suite sur la droite.
Hein, ouais, c'est ça.
Et c'est la deuxième ou troisième chapelle, je m'en souviens plus. Mais très, très, très beau vitrail où l'on voit justement des infirmières et où l'on voit aussi des infirmières religieuses. Il y a aussi la femme qui laboure les champs parce que son mari est à la guerre. Enfin, voilà, c'est vraiment le travail de toutes ces femmes pendant la guerre de 14. La priorité du service de santé aux armées est de remettre les soldats sur pied le plus rapidement possible pour pouvoir les renvoyer au combat. On manque tellement d'hommes et de combattants que c'est vraiment un impératif. Hein. Certains généraux ont même dit que la guerre avait été gagnée grâce au retour rapide en première ligne de ces soldats blessés.
Ah ouais, ouais.
Alors, dans cette guerre moderne, c'est vrai qu'on le sait peu, remarque, quand on réfléchit, on s'en doute, 70% de ces blessés, en fait, le sont par éclat d'obus.
Ah, ouais,
70%.
Il y a
d'artillerie que c'est vraiment énorme. Hein. Ouais. Et les 30% qui restent, en fait, sont blessés par balle ou par les gaz de combat ou autres. Autres, ça peut être baïonnette, couteau. Ouais. Le gars, il tombe sur des barbelés ou sur des pieux ou même autre chose.
Hein. Donc 70%, c'est
70%,
d'obus, d'artillerie.
Des blessures d'artillerie. Ouais, ouais. Alors, on imagine un peu ce que ça peut donner, les blessures d'artillerie. Hein.
C'est pas joli.
On compte après-guerre plus de 1 million d'invalides, amputés, aveugles et gueules cassées.
Eh oui.
Et on en parle beaucoup de ces gueules cassées, les pauvres. Sans parler, on en avait parlé avec l'amnésique des tranchées, des maladies mentales post-traumatiques.
Ah oui, bien sûr. Oui, oui.
Voilà. Alors, en ce qui concerne notre Aveyron, parce que c'est chronique aveyronnaise.
Oui.
Donc, en ce qui concerne l'Aveyron, notre département compte entre 1914 et 1918 24 hôpitaux avec un total de quand même 2500 lits.
Ah ouais.
Alors, je vais vous énumérer tous ces hôpitaux.
24?
24.
Ah bon, bah alors je vais prendre un café.
Alors, allez-y, chers auditeurs, allez aussi vous faire un café. Mais prenez la radio avec vous. Alors, à Decazeville, nous comptons deux hôpitaux. L'hôpital auxiliaire numéro 17, qui est à l'hôpital privé de la société, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, pour les entreprises, l'hôpital privé de la société des mines de Commentry et de Fourchambault. 20 lits, tenu par la SSBM. Et l'hôpital bénévole numéro 82 bis, implanté dans l'hospice municipal Tinel et Tripadou, avec 85 lits. À Viviers, nous avons deux hôpitaux. L'hôpital auxiliaire numéro 7, à l'hôpital Vieille-Montagne des usines Commentry. Donc encore, tu vois, une entreprise qui avait son propre hôpital pour les mineurs et qui va le mettre au service des blessés militaires. Avec 60 lits, tenu également par la SSBM, et l'hôpital auxiliaire numéro 30 qui se trouve à la clinique Montfrein, avec 72 lits. Au Gas, donc près de Decazeville, nous avons l'hôpital bénévole numéro 57 bis. Il s'agit de l'hôpital de la Compagnie des Aciéries de France, avec 31 lits. Pour nos amis espalionnés qui nous écoutent, C'est un peu compliqué dans le trou d'Espalion, mais s'ils écoutent un podcast, ils arrivent à avoir notre émission. Donc à Espalion, nous avons l'hôpital bénévole numéro 56 bis implanté dans l'hôpital communal, avec 50 lits. À Saint-Afrique, nous avons deux hôpitaux, l'hôpital auxiliaire numéro 22 à la Maison du Peuple, avec 40 lits, tenu par la SSBM. Et également, cet hôpital a deux annexes, une annexe au couvent des Sœurs de Cluny avec 20 lits et la maison Verne avec également 20 lits. Le second hôpital de Sainte-Afrique est l'hôpital auxiliaire numéro 112 au pensionnat laïque de garçons avec 24 lits. Lui, il est tenu par l'ADF. À Tournemire, tu vois, on va loin quand même, c'est pas que les grandes villes aveyronnaises.
Hein. Mais là, c'est là que je comprends pas parce que dans toutes ces villes, il n'y a pas de gare. Hein.
Il devait. Ah, ah, moi, je pense que, ouais. Alors moi je connais très très mal Tournemire, mais tu sais, il y avait Espalion, il y avait une gare. Hein.
C'est vrai qu'il y avait
tu sais, le réseau ferroviaire de l'époque, ouais, c'est absolument pas le réseau de maintenant. Il y avait des trains quasiment partout. Hein. Donc à Tournemire, nous avons l'hôpital auxiliaire numéro 23 au couvent Notre-Dame avec 30 lits. Lui, il est tenu par la SSBM et également les religieuses du couvent. À Villefranche-de-Rouergue, nous avons deux hôpitaux. L'hôpital auxiliaire numéro 14 au couvent Sainte-Claire avec 105 lits, c'est quand même important, tenu par les religieuses et la SSBM. Et nous avons également l'hospice municipal de Villefranche-de-Rouergue. À Villeneuve, il y a une gare aussi. Hein. La gare de, justement, ça s'appelle, je ne sais plus, la gare de Villeneuve ou Villeneuve-Gare. Enfin, c'est juste à côté, c'est pas Villeneuve même, mais c'est tout proche. Nous avons l'hôpital auxiliaire numéro 26 à l'école libre de filles. Avec 50 lits. À Cap-de-Nac, c'est spécial, il n'y a pas d'hôpital. Mais nous avons...
Pourtant, il y a une gare, là.
Oui, mais justement, je vais en parler, une gare très, très importante de nos jours, mais qui, surtout à l'époque, était vraiment très, très importante. Il y a une infirmerie de gare, tenue par une société spéciale qui s'appelle la Société d'entraide de la Croix-Bleue. Donc, comme je le disais, on a tendance à l'oublier de nos jours, mais Cap-de-Nac était un nœud ferroviaire vraiment très important. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'hôpital, mais il y a une infirmerie de gare, parce que ces bénévoles avec pour fonction déjà de donner quelques soins aux blessés, mais surtout leur donner à boire et leur donner à manger lorsque les trains étaient à l'arrêt dans cette gare. Parce que comme c'est un nœud ferroviaire vraiment important, les trains étaient à l'arrêt pour pouvoir après être dispatchés dans plein de lieux différents. Donc un lieu vraiment très très important. Je sais pas d'ailleurs de nos jours, tu vois, si je crois que Cap-de-Nac a un petit peu perdu, je veux pas me tromper, je veux vexer personne, chers auditeurs, mais je crois que Cap-de-Nac gare a un peu perdu cette destination justement de grande gare pour dispatcher un peu les trains un peu partout. Et alors pour les plus grandes villes de l'Aveyron, nous avons Millau et Rodez. Alors on va commencer par Millau. À Millau, il y a 4 hôpitaux. L'hôpital auxiliaire numéro 19 au collège de garçons avec 60 lits tenu par la SSBM. Alors là j'ai quelques chiffres. De septembre 14 à février 18, il reçoit 1836 blessés. Et malade, donc c'est vraiment énorme. Il y a deux annexes à cet hôpital, l'Institut Sainte-Marie avec 52 lits et l'École libre du Sacré-Cœur avec 40 lits. Nous avons également l'hôpital auxiliaire numéro 106 au Collège municipal de filles avec 60 lits, tenu par l'UFF. L'hôpital auxiliaire numéro 107, l'Institution Saint-Joseph avec 40 lits, également tenu par l'UFF. Et pour finir avec Millau, nous avons l'hospice civil et mixte qui a 24 lits. On va finir en beauté, avec Rodez, la capitale. Oui. À Rodez, nous avons 8 hôpitaux.
Oh là là.
Ah oui, c'est énorme. Hein. L'hôpital auxiliaire numéro 11, qui se trouve à la clinique du docteur Bonnefous, que les Ruthénois ont bien connu, puisqu'elle a fermé il y a quelques années, avec 60 lits, tenus par la SSBM. L'hôpital complémentaire numéro 21, au lycée municipal de Garçons. Ce qui est actuellement est la place Foch, avec, c'est énorme, 250 lits. Là, j'ai quelques chiffres aussi. De septembre 14 à septembre 16, il reçoit 2557 malades et blessés hospitalisés. Donc c'est vraiment énorme. Nous avons également l'hôpital complémentaire numéro 22, qui se trouvait au Grand Séminaire, donc l'actuelle école Louis Kerb, avec 250 lits. L'hôpital complémentaire 23, à l'école normale d'instituteurs avec 200 lits. L'hôpital complémentaire numéro 30 à l'institution Saint-Joseph avec 200 lits. l'hôpital complémentaire numéro 32 à l'institution Sainte-Geneviève, donc juste à côté de Saint-Joseph, hein, avec 250 lits, là aussi j'ai quelques chiffres, il reçoit 4319 malades et blessés hospitalisés. Nous avons également l'hôpital mixte à l'hôpital Sainte-Marthe, c'est l'hôpital Combarel, hein, avec 130 lits pour les militaires, pas pour les civils, hein, et on termine avec Rodez par l'asile départemental d'aliénés de Parère.
D'accord.
Alors, il existe aussi en Aveyron. On trouve très très peu d'informations. Mmh. Il va exister, même après la guerre, certains établissements qui seront réservés pour la rééducation, notamment des amputés. Je sais qu'il existe des photos très très rares qui montrent l'école qui se trouve plateau Camonil, où l'on voit des soldats mutilés en train d'apprendre à se servir sur des machines-outils, des bras en prothèse ou des choses comme ça. Donc, mais ça, on en parle vraiment un peu. C'est assez compliqué de trouver des informations. Alors, pour terminer aujourd'hui. Je vais vous lire une carte postale écrite par Louis Barthes, infirmier, élève, médecin, à l'hôpital temporaire numéro 22 au Grand Séminaire de Rodez.
D'accord.
Tu sais que je suis collectionneur dans l'âme et que j'essaye de récupérer le plus possible de choses. J'ai récupéré il y a pas longtemps sur Internet, quelqu'un qui vendait ça dans l'Est de la France, un très très beau lot, je dirais même un lot extraordinaire de photos, de cartes photos. À l'époque, on faisait éditer ces photos en cartes postales. C'était sa propre photo ou des photos de groupe, enfin, ou ce qu'on voulait. Et au dos, tu sais, quand on retournait, c'était comme une carte postale. C'était divisé, c'était marqué adresse et correspondance.
On peut encore le faire, hein. Tu prends une photo.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Tu mets un temps.
Bah écoute,
derrière,
c'est un peu les selfies qu'on envoie, quoi. Ouais, c'est vrai. Avec un petit mot, c'est l'ancêtre de nos selfies. Et j'ai récupéré un lot extraordinaire d'une vingtaine de photos de cet infirmier qui est aussi élève médecin à l'hôpital qui se trouvait dans l'ancien grand séminaire. Des photos extraordinaires où il montre les blessés, où il montre les infirmiers, les infirmières. Tout est décrit au dos, les noms. Les pathologies des blessés, enfin, c'est quelque chose d'extraordinaire. La carte que je vais vous lire, il n'y a pas de date, mais vu les cartes que j'ai, c'est entre, on va dire, les courants de l'année 1915. C'est des témoignages vraiment, autant au niveau explication qu'au niveau photo, c'est des témoignages extraordinaires. Alors, je vous lis cette carte. « Bien chers parents, excusez mon long silence et la brièveté de ma carte, mais nous sommes surchargés de besogne. Nous avons reçu 3 convois dans l'affaire de 8 jours. L'hôpital est presque plein. Nous avons à nouveau 247 blessés. Ils ont été évacués pour la plupart de 3 et sont presque tous des convalescents de typhoïde, d'embarras gastrique, de rhume. Rhume, à mon avis, ça... Enfin, il dit rhume, mais je pense pas qu'on quittait le front pour un petit rhume. Ouais. Ça devait être quelque chose de costaud. Nous avons reçu cependant quelques blessés mal foutus, les pauvres diables. Enfin quoi ? Du travail pour tout dimanche. Il faut espérer que bientôt nous allons reprendre notre travail habituel et que nous n'aurons bientôt plus ce surmenage. Je me lève à 7h, moins le quart, et me couche à 10h30, 11h. On larde et on fait de la besogne. À bientôt, le plaisir de vous lire. Affectueux baiser, Louis.
Eh ben...
Beau témoignage.
Ouais. Il raconte un petit peu sa vie, son travail, sans rentrer trop dans les détails pour la personne à qui envoie la carte postale, évidemment.
C'est ça. Bon. Alors, tous ces lieux dont je viens de parler, ça a été un peu long, je suis désolé, chers auditeurs, mais c'est important pour l'Aveyron parce que si on est d'Espalion, si on est de Rodez, si on est de Millau, si on est de Cazeville ou de Tournemire, on passe régulièrement devant ces bâtiments. Peut-être même on y travaille, hein, comme le fameux lycée Louis Kerbe dont je viens de parler. Et on a tendance à oublier tout ce qui s'est passé dans ces lieux. Donc, je trouvais important, nous sommes le 1er novembre, le week-end où l'on fête nos morts, et bientôt le 11 novembre, je trouvais important de remettre tous ces bâtiments et tous ces gens qui ont travaillé pour nos blessés. Les remettre au goût du jour. Quoi.
Et oui, les mettre en avant. 24 hôpitaux donc en Aveyron pendant la Première Guerre mondiale. Bon,
tout à fait.
Il en reste plus que 2, 3. Bon, écoute, merci beaucoup Vincent.
Je t'en prie, avec plaisir.
Rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle émission de Mémoire Aveyronnaise sur CFM Rodez, bien sûr.
Oui.
On sera au mois de novembre, on sera toujours autour de la Première Guerre mondiale.
Alors j'aurais pu, mais cette émission et la dernière, c'était sur 14-18, je me suis dit je vais un peu varier.
Ouais.
Nous allons prendre, attention au carburant. Nous allons prendre la voiture, nous allons aller dans l'Oise.
Oh là là, ah ouais, faut faire le plein.
C'est ça.
C'est pas gagné.
C'est pas gagné. En fait, je vais vous parler du Frontstallag numéro 122, qui n'est autre que le camp d'internement et de transit de Compiègne-Royallieu, qui a vu passer la presque totalité des résistants qui ont été arrêtés par les Allemands en France et qui seront internés dans ce camp avant d'être déportés vers les camps de concentration allemands. Donc également beaucoup d'Aveyronnais qui sont passés. Voilà
dire.
Le lien avec l'Aveyron. je te vois venir.
Bien vu.
Donc j'ai les chiffres. Je vous en parlerai. J'ai eu l'occasion d'avoir une visite extraordinaire de la part du conservateur et qui m'a donné tous les chiffres justement en lien avec l'Aveyron, spécialement pour vous, chers auditeurs.
Merci beaucoup Vincent. À dans 15 jours.
Merci à toi. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches.